Vous écoutez Radio Auraviv, la radio plus près de vous, et c'est le moment de retrouver l'émission Le Temps de l'Histoire, présentée par Gérard Levin, en collaboration avec Radio Auraviv Toulouse.
Bonjour, voici votre émission Le Temps de l'Histoire. Aujourd'hui, nous allons remonter loin dans le temps. Écoutez cette histoire. Il s'avance d'un pas vif et décidé, ce pas des hommes habitués à marcher depuis toujours par les champs et les bois, sur les routes larges des plaines et dans les sentes rocailleuses des montagnes. Il va le front haut, le regard clair sous les sourcils broussailleux, le visage hâlé par les longs séjours passés dans un face-à-face avec le soleil et le ciel, avec le Dieu qui vit par-delà ses apparences et dont il est la lumière. Le vent chaud et tourbillonnant de ce matin de printemps soulève sous ses pieds chaussés de sandales légères d'impalpables nuages de poussière. Le vent fait claquer comme une voile sa robe de lin blanc aux amples manches qu'il a retroussées sur ses épaules pour conserver toute liberté de mouvement. Il entraîne un sombre sillon sa longue chevelure que nul ciseau, nulle lame n'a jamais coupé, car, par sa mère, il a été consacré dès l'enfance au Dieu vivant d'Israël et de Juda, à Yahvé. Il prend appui sur un long bâton noueux qui lui sert de canne tout autant que d'arme pour tenir à distance les bêtes sauvages et chasser les chiens efflanqués qui rôdent autour des fermes isolées et dans le voisinage des villages. Pour tout bagage, il a jeté sur l'épaule un sac de toile où est serré une tunique propre et un court manteau de laine dans lequel il s'enveloppe lorsque la nuit le surprend sans qu'il ait songé à chercher un gîte. Car depuis plusieurs jours déjà, il marche. Il vient de traverser l'ample vallée des Réphaïm, une haute plaine pierreuse balayée par les vents, les bises du nord lors de la mauvaise saison, les brises de l'ouest rafraîchies l'été par leur passage sur la mer, l'OTAN impérieux, encore chargé des senteurs sauvages du désert du sud, les souffles du levant imprégnés des moiteurs de la mer de sel. Cependant, on y voit des villages épars et dans les champs délimités par des tas de pierres, verdit le blé en herbe, promesse de riches récoltes, lorsque le soleil de l'été aura doré les lourds épis, tandis que l'on commence à moissonner l'orge. Il a gravi les collines qui ferment au sud la vallée, bordés en ces lieux d'oliviers aux troncs noueux, dont l'ombre desquels sommeillent bergers et chevriers qui d'un œil surveillent leurs troupeaux bruyants. Et voici que devant lui s'ouvre une autre plaine fermée au sud par une basse montagne, la montagne d'Hébron. Le voyageur se trouve là, aux confins du territoire de Benjamin et de Juda. Derrière lui s'étend le domaine de la tribu de Benjamin, que domine le mont Gilbéa, ville puissante où règne Saül, et à l'est Jérusalem, orgueilleuse forteresse des Jubiséens, haut lieu canaïen qui continue de défier les Hébreux, auxquels Yahvé a donné tous les territoires alentours. Devant lui commence le domaine de Juda, la plus puissante mais aussi la plus indépendante des tribus issues de Jacob. Car depuis que le peuple d'Israël est monté en Canaan sous la conduite de Josué, depuis qu'il s'est taillé un fief dans les plaines et les monts entourant Hébron, Juda a évité de prendre part aux guerres que les tribus du nord ont menées contre les Philistins ou le Cananéen sous la conduite de leur juge, chef de guerre élu pour un temps. Si bien que d'aucuns voudraient exclure Juda de la grande famille des enfants d'Israël. Mais en ce jour, Saül est le premier à avoir reçu l'onction de la royauté d'Israël. Saül le héros, issu de Benjamin. Saül veut rallier Juda à sa cause. Or l'homme descend vers la vallée, il hâte le pas et sous ses pieds roulent les pierres des chemins abrupts. Son regard est tourné vers le levant, vers les hauteurs accidentées au flanc desquelles s'étagent les maisons de pierre et de terre brune d'une riche bourgade. La première qu'atteint le voyageur venant du nord, la première du pays de Juda. Bientôt, il a rejoint la plaine. et il s'engage sur une large route qui chemine entre les champs soigneusement cultivés. En l'apercevant, les paysans cessent leur travail pour le regarder passer, et certains osent l'approcher sans toutefois l'aborder. Cependant, sur un âne vient un homme qui rejoint le voyageur. Il le dévisage un instant après l'avoir salué au nom de Yahvé. L'inconnu l'a béni et aussitôt après, sans ajouter une parole, l'homme a poussé son âne au trot et il est parti vers le village, vers Bethléem, là-bas sur la colline. Et lorsqu'il parvint à la hauteur des premières maisons, lorsqu'il s'engage dans les rues tortueuses, il se met à crier « Venez, venez, homme de Bethléem, sur la route s'avance l'élu du Seigneur, vers nous vient le voyant de Yahvé. » Est-ce signe heureux ? Demande quelqu'un. Apporte-t-il un bien ou vient-il annoncer quelque malheur ? S'inquiète une femme assise sur le seuil de sa demeure où elle file en surveillant un tout jeune enfant qui joue dans la poussière. Un vieillard est sorti dans la rue où il se tient dans l'ombre d'un figuier. C'est l'un des anciens qui gouverne la ville, le plus vieux d'entre eux. Il est né à l'époque où Jephté de Galaad vainquit les Ammonites, et dans sa jeunesse, Istahan de Bethléem a été juge sur Israël. Devant lui s'est arrêté le messager. Il le salue, tombe en bas de sa monture, et par trois fois il frappe de son front la poussière du sol, et se redressant, il s'écrie « Que te bénisse le Seigneur, trois fois et encore trois fois !»« Que bénie soit ta mère, » répond le vieillard, « mais parle !» Pourquoi viens-tu à moi, tout essoufflé, hors de toi-même, comme si le Philistin était aux portes du pays ? Sur la route, sur le chemin qui vient du nord, de la vallée de Réphaïm, du pays de Benjamin, j'ai croisé le voyant de Yahvé, celui qui a oint le roi Saül, celui que notre Dieu avait élu pour exercer la juridicature sur Israël, à Mispa. Il vient vers nous, il approche et bientôt il sera parmi nous. Ainsi parle ton serviteur. Quelles paroles sont sorties de tes lèvres ? Comment sais-tu que cet homme est Samuel ? Je le connais, je le connais. J'étais parmi les guerriers que Juda envoya à Saül pour combattre Nahash, l'Ammonite, lorsqu'il vint dresser son camp contre Yabesh de Galaad. Saül n'avait pas encore été proclamé roi et il revenait des champs derrière ses bœufs. On lui apprit la descente des hommes d'Ammon et on lui rapporta le serment qu'avait fait leur roi, Nahash, de crever l'œil droit aux gens de Yabesh et à tous les hommes d'Israël. Or, Saül n'a-t-il pas alors envoyé des messages à travers tout le pays afin que tous les fils d'Israël s'unissent et marchent contre les Ammonites ? Et moi, j'étais parmi les gens de Juda et nous avons vaincu les guerriers de Nahash. J'ai alors vu Samuel vers qui s'est tourné le peuple à la suite de cette victoire. N'est-ce pas Samuel qui nous a dit alors « Venez, allons à Gilgal, où nous renouvellerons la royauté. » Et là, Saül ne fut-il pas proclamé roi devant Yahvé, à Gilgal, après qu'on eut immolé des bœufs, sacrifice de communion devant Yahvé ? Comment aurais-je pu depuis oublier Samuel, le premier parmi les voyants de Yahvé. Le vieillard s'est levé, il appelle ses fils, et à grands cris, les gens viennent autour de lui. Chers amis, je vous propose quelques instants de musique.
Yerushalayim shel zahav.
Chers amis, nous reprenons le fil de cette belle histoire. Lorsque de Bethléem s'approche Samuel, sur le chemin à la sortie du bourg s'avancent à sa rencontre les anciens du pays, et derrière eux viennent les hommes qui restaient encore dans leur demeure. Comme les nuées de sauterelles issues du désert s'abattent sur les champs par les sèches journées de l'été, la nouvelle de l'arrivée de l'homme de Yahvé s'est répandue dans les rues et les collines, dans les vignes et les plantations d'oliviers qui s'éploient au pied de la ville. Abandonnant la rère et la houe, les paysans accourent pour former cortège à l'envoyé du Seigneur. Devant Samuel, les anciens se sont arrêtés. Ils l'ont salué en se prosternant et lui ont demandé sa bénédiction. Puis le premier parmi les anciens lui a demandé « Ta venue est-elle pour nous de bon augure, voyant ? Je veux offrir un sacrifice à Yahvé, » répond ce dernier. « Purifiez-vous afin de m'accompagner dans ce sacrifice. » À sa suite, Ils sont revenus vers le bourg tout en manifestant leur joie, mais nul n'ose interroger le voyant sur les raisons de sa visite, car il ne peut être venu de si loin pour offrir un sacrifice à son Dieu. Ainsi s'engage-t-il dans les rues ensoleillées où courent encore les chiens aux poils rêches et jaunâtres qui mêlent leurs aboiements aux cris joyeux des femmes montées sur les terrasses pour voir passer l'homme qui a donné un roi à Israël. Les mères prennent leurs enfants dans leurs bras et avec eux se penchent sur le cortège. « Vois, disait-elle, vois l'inspiré du Seigneur, l'homme qui a choisi Yahvé pour la plus grande joie de notre peuple. » Et les enfants portent des regards remplis de respect et de crainte vers cet homme dont on dit qu'il parle avec Yahvé, le Dieu irascible, le Dieu tonnant d'Israël. Le cortège s'est arrêté sur une place étirée en longueur à flanc de coteau, plantée de peupliers, de térébenthes et de grenadiers aux fruits rougissants. Samuel s'est dressé sur le seuil de pierre d'une demeure où il domine la place remplie de monde. Il lève le regard vers les terrasses des maisons de terre brune. Là aussi ont pris place les femmes et les enfants du voisinage. Elles frappent dans leurs mains en poussant des cris modulés qui sortent du fond de leur gorge. Ainsi salue-t-elle l'envoyé de Yahvé et manifeste-t-elle leur joie. Mais lui, ce n'est pas la joie qu'il apporte. Il a levé les bras pour réclamer le silence. Puis il parle. « Vers vous, le Seigneur m'a envoyé. Il m'a fait lever de ma maison de Nahaoth parmi les voyants de Yahvé, au pays d'Amathaïm. Il m'a enjoint de venir parmi les hommes de Juda, ces enfants de Jacob qu'il a en affection. Qu'on apporte ici une génisse pour l'offrir en sacrifice à Yahvé, afin que le Seigneur nous soit favorable. Car sachez-le, les Philistins ont pris les armes contre toutes les cités. De leurs cités, de leur pays, ont vomi des guerriers avec leurs chars, leurs cuirasses d'airain, leurs épées de fer aiguisées. Et voici qu'ils marchent sur Israël. Ils marchent sur Juda. Ils ont encore sur le cœur la défaite que par Saül le bras de Yahvé leur a infligée. Leur face ne respire que la guerre et ils ravageront nos campagnes qui ne nous soient placées à nouveau sous leurs joues, comme des bœufs dociles. Et à nouveau, ils nous auront interdit de travailler le fer. Ainsi, ils nous auront forcés à venir dans leur cité pour acheter les outils de fer, afin que nous ne puissions pas forger des armes pour les chasser de nos terres. Or, c'est vers Juda qu'ils marchent. C'est vers Juda que marchent leurs bataillons, vers Soko et Azeka. C'est là que Saül le roi va aller les attendre avec les troupes qu'il a levées sur Benjamin et Manassé, Éphraïm et Galaad. Et moi, je viens vers vous ici à Bethléem pour vous dire « Redoutez la colère de Yahvé ». Préservez-vous de l'abomination, que chacun de vous en âge de prendre les armes se lève et vienne devant Saül, que tous, les jeunes héros de Juda, se préparent à combattre le Philistin, qu'ils mettent leurs forces et leurs espoirs dans Yahvé, Seigneur des armées. Ainsi parle Samuel. Alors se mettent à gémir les femmes, et la consternation envahit le cœur des vieillards. Mais les jeunes sont avides de gloire et de combat, poussent des clameurs de joie et réclament des armes pour aller combattre l'orgueil de la Philistie. Selon le vœu du voyant, est alors amenée une génisse sans tache de moins de 12 mois. Elle est conduite jusqu'à l'autel de Yahvé, un autel de pierre carrée dont les angles sont redressés semblables à des cornes massives. Il est dressé sous le ciel dans la partie la plus haute du village. Du bois y a été entassé car entière la victime doit être offerte à Yahvé. Pour le Dieu, elle sera entièrement brûlée en holocauste. L'homme qui a conduit la bête jusque-là lui tient la tête penchée devant l'autel. Samuel impose les mains sur la victime, puis il prend le couteau du sacrifice, un couteau dont la lame de bronze est pure. L'homme relève la tête de la bête afin d'offrir sa gorge, et avant qu'elle n'ait réagi d'un coup précis, l'officiant lui a tranché. L'homme retient la victime tandis qu'elle tombe sur les genoux avec un beuglement sourd. À l'aide d'une coupe de terre cuite, Samuel recueille le sang qui jaillit en tourbillon de la blessure et le répand sur l'autel. D'une main habile, il lui retire la peau. De droit, elle appartient au sacrificateur, car elle est la seule partie qui ne sera pas consumée. Puis, il découpe son corps en larges parts, qui toutes reviennent à Yahvé afin de le rendre favorable à son peuple. Sur l'autel, dans le feu, il y jette la carcasse et la tête, après qu'elles aient été enduites de sel. Les pattes et les entrailles sont lavées soigneusement à l'eau claire, avant d'être salées et pareillement abandonnées à la voracité des flammes. Seul est épargné le muscle ischiatique qui, depuis la hanche, commande le mouvement des jambes. C'est ce muscle qu'avait touché l'ange lorsqu'il était apparu à Jacob pour le combattre. Depuis, toute sa descendance s'abstient de manger ce muscle chez les animaux et on ne l'offre pas non plus à Yahvé. Il sera jeté le lendemain avec les cendres du sacrifice, car tout le reste du jour et toute la nuit va être entretenu le feu afin que toute chair soit consumée et que le Dieu reçoive sa part entière sans qu'il ait été spolié de la moindre partie. Samuel s'est lavé les mains, les bras, dans un bassin que lui a présenté une femme. Puis il s'est essuyé au tissu que lui tend l'homme qui a conduit la bête au sacrifice. Cette génisse, dit alors l'homme, je l'ai prélevée sur mon troupeau et je l'offre à Yahvé au nom de tous les Bethlémites. Prie Yahvé ton Dieu en faveur de tes serviteurs afin qu'il nous donne la victoire. Je prierai mon Dieu, et si vous lui obéissez et le servez, il vous exaucera. Et toi, qui parais craindre Yahvé, quel est ton nom? Le nom de ton serviteur est Jessé. J'ai une grande demeure à l'est du village, et plusieurs champs, des vignes et des oliviers sont les biens que m'a accordé le Seigneur. Si tu veux honorer ton serviteur, tu daigneras venir en sa demeure, et tu y passeras la nuit, et tu y resteras autant qu'il te plaira. Allons, j'accepte ton hospitalité, car depuis plusieurs jours, je suis en route. Pour aujourd'hui, nous allons arrêter ici notre histoire, que je reprendrai lors de notre prochaine émission. Je vous remercie de votre écoute, au plaisir de vous retrouver. Merci.
Or à vive, la radio du web non-stop.